Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral. Et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Pour ce premier numéro spécial présidentiel 2022, on parle de l'abstention avec Xavier Breton, député de l'Ain, et aussi un politologue pour analyser ce comportement qui prend de l'ampleur.
Reportage fiction avec les enfants du centre social Le Lavoir à Ambérieu. Ils ont pris le pouvoir et vont faire leur propre gouvernement. Écoutez leurs propositions et celles des habitants d'Ambérieu-en-Bugé.
Et le point sur la situation en Ukraine et sur les initiatives dans l'Ain pour aider les habitants.
Et l'actu en bref, c'est tout de suite.
Bourg, en bref.
Ils vont marcher pour le climat et la justice sociale.
C'est ce samedi 12 mars à Bourg-en-Bresse et dans une centaine d'autres villes en France. À l'initiative d'associations, collectifs et entreprises, et à l'approche de l'élection présidentielle, ils veulent remettre l'urgence climatique au cœur des débats des candidats et lui donner plus de place dans les médias. Le rendez-vous est donné à 14h, place de la Vinaigrerie, à côté de la Tannerie.
Des artistes féminines sur le 90FM pour le 8 mars.
Pour la journée mondiale des droits des femmes, Radio B vous fait écouter seulement des artistes féminines. Ce sera toute la journée ce mardi sur le 90FM et sur notre site radio-b.fr. D'autres associations organisent des événements pour cette journée. La programmation est à retrouver sur le site de l'UDAF01.
La poésie à l'honneur à Bourg-en-Bresse jusqu'au 26 mars avec le festival Voix Mêlée.
Et c'est la 8e édition du Printemps des Poètes. Radio B est partenaire du concert Sous la Langue. Émission spéciale en public au théâtre Arphonème mercredi 16 mars à 20h. Pendant 3 ans, 3 musiciens ont rencontré des patoisans et des locuteurs issus de l'immigration. Le bilan pendant cette émission. Et en deuxième partie, Le Temps des Noyaux vous invitera à prendre le micro sur la scène du théâtre. L'entrée est gratuite et pour réserver, rendez-vous sur le site Arphonème. Toute la programmation du festival Le Printemps des Poètes est à retrouver sur le Facebook de Voix Mêlée.
Radio B prépare une conférence avec Altec, le centre de culture scientifique de l'Ain.
2 invités seront sur la scène de la Maison de la Culture et de la Citoyenneté le mardi 29 mars, une chercheuse et un journaliste scientifique. Nous échangerons avec eux sur l'image de la science dans les médias, avec l'exemple du changement climatique. C'est le mardi 29 mars à 18h30 et c'est gratuit.
2 minutes, une actu.
Le 24 février dernier, le président russe Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. On fait le point avec vous, Inès.
Aujourd'hui, on parle d'une véritable guerre. Les hommes ukrainiens de plus de 18 ans restent sur place pour défendre leur pays, tandis que les familles fuient vers l'Europe. Ils sont plus 1,5 million à avoir quitté l'Ukraine à ce jour. Vladimir Poutine avait proposé des couloirs humanitaires pour les Ukrainiens, mais la plupart allaient en direction de la Russie et non de l'Europe. Le gouvernement ukrainien a donc refusé cette proposition. Et ce lundi après-midi, 2 nouvelles négociations ont lieu entre Kiev et Moscou.
Alors pourquoi un tel conflit ?
L'Ukraine pourrait être divisée en 2 parties. Au nord-ouest, les habitants parlent ukrainien et sont majoritairement pro-européens. Et au sud-est, les habitants parlent surtout le russe, comme en Crimée ou dans le Donbass, une région tenue par les séparatistes pro-russes depuis 2014. Fin février 2022, Vladimir Poutine annonce qu'il reconnaît l'indépendance de ses territoires et la guerre commence 3 jours plus tard.
Où en est la situation en Ukraine ?
Les Russes ont atteint plusieurs grandes villes, comme le port de Mariupol, à l'est du pays, et les chars russes devraient atteindre la capitale ukrainienne dans les prochains jours. Les soldats ukrainiens se tiennent prêts à faire sauter le pont qui relie Kiev à l'est du pays pour ralentir l'avancée russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avertit aussi que les Russes vont bientôt s'attaquer à un autre port stratégique du pays, celui d'Odessa, sur la mer Noire.
Quelles sont les conséquences sur l'Europe et la France ?
L'afflux d'habitants aux frontières avec l'Europe est déjà important, avec 1 700 000 Ukrainiens qui ont quitté le pays ce lundi. Ce chiffre pourrait atteindre 5 millions de personnes, selon Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne. L'association La Croix-Rouge a aussi alerté sur l'aide qui doit être apportée aux Ukrainiens sur place et à la frontière. Il manque notamment d'eau et de médicaments. Du côté économique, notre monnaie a perdu environ 5% de sa valeur en ce début d'année, une conséquence directe qui vient notamment de la possibilité de sanctions sur le pétrole russe. Et le prix de l'énergie poursuit son augmentation. Le cours du gaz européen a augmenté de plus de 60% ce lundi à cause de la crainte de perturbations sur l'exportation du gaz. Plus de 40% du gaz européen provient de Russie.
Alors, de nombreuses initiatives ont vu le jour dans le monde, mais aussi dans l'Ain. Inès, vous avez échangé avec deux familles qui veulent rapatrier des Ukrainiens.
Oui, une famille ukrainienne qui vit en Espagne a voulu rejoindre la frontière ukrainienne pour rapatrier leur fils. Mais leur fourgon est tombé en panne à Saint-Étienne-du-Bois, dans l'Ain. Depuis vendredi, la famille cherche une nouvelle boîte de vitesse, mais la pièce est introuvable. Elle demande alors l'aide des habitants. Vous pouvez aller sur la page Facebook de Radio B pour voir notre publication de ce lundi 7 mars avec les images de cette pièce manquante. Autre histoire, un couple d'Indinois qui habite Saint-Didier-de-Formans accueille tous les ans de jeunes Ukrainiens pour l'été. Bruno est parti une première fois avec sa voiture pour ramener une famille et il repart dès ce mardi 8 mars à la frontière avec un bus cette fois pour ramener encore plus de familles. Si vous acceptez de loger ces familles ou d'aider Bruno et sa compagne d'une autre façon, vous pouvez les contacter sur l'adresse mail enfant avec un S. ukraine.01@gmail.com et aussi toutes ces infos sont sur notre publication Facebook Radio B du lundi 7 mars.
Merci Inès.
Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français.
Parce que c'est notre projet !
L'invité de Radio B.
En avril prochain, les 10 et 24, nous sommes appelés à voter pour l'élection présidentielle 2022. Alors ça y est, on connaît les candidats et candidates. 12 ont obtenu les 500 parrainages nécessaires pour se présenter. La campagne officielle commence le lundi 28 mars. Elle s'arrêtera la veille du premier tour. Les voici classés de la droite vers la gauche. Marine Le Pen pour le Rassemblement National, Éric Zemmour pour Reconquête, Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, Valérie Pécresse, Les Républicains, Emmanuel Macron pour La République En Marche, Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste, Yannick Jadot, écologiste, Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, Fabien Roussel, le PCF, Jean Lassalle, Résistons, Nathalie Arthaud, Lutte Ouvrière et Philippe Poutou, le nouveau parti anticapitaliste. 55% d'abstention aux élections municipales en 2020, 67% aux départementales et régionales de 2021, un record. Alors combien de Français iront voter pour cette présidentielle ? Pour en parler, deux invités. Avec moi en studio, Xavier Breton, bonjour.
Bonjour.
Député de l'Ain et conseiller régional, vous avez présidé une mission parlementaire sur l'abstention. Et avec nous par téléphone, Romain Meltz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Lyon 2. Vous êtes aussi chercheur associé à l'ENS à Lyon. Alors globalement, pour tous les derniers scrutins, l'abstention décolle. Comment vous l'expliquez, Xavier Breton ?
Je crois qu'il y a deux tendances. Il y a une tendance structurelle. Depuis des décennies maintenant, l'abstention progresse d'élection en élection. Et puis, il y a eu des raisons plus conjoncturelles de l'actualité pour les derniers scrutins, avec notamment la crise sanitaire qui a pu provoquer, soit au moment des élections municipales en 2020, soit en 2021 pour les départementales et régionales, une appréhension pour certains électeurs de dire...
Romain Meltz ?
Mon timing à moi est un peu différent. Je pense que ça vient des années 80 et c'est quand même lié à la multiplication des scrutins liés à la politique de décentralisation qu'a connue la France à partir de là. On a conduit les électeurs à se perdre un peu dans on votait où, pourquoi. Vous voyez, les départementales, après être devenues les générales, les régionales, les municipales. Vous voyez, ça a rendu les choses quand même très complexes pour un électeur qui ne sait plus trop pourquoi il vote.
Vous avez retourné une réaction ?
Mais je crois qu'il y a aussi un message qui est plus profond, qui nous est adressé à nous élus. Moi, j'entends deux choses de la part des électeurs, c'est de dire voter, ça ne sert à rien. Alors, je caricature un peu en disant ça, mais c'est parce qu'effectivement, on se rend compte que des grands enjeux, comme par exemple le chômage pendant des années, maintenant la montée de l'insécurité, les préoccupations environnementales, enfin, etc., c'est de se dire il y a des votes, mais finalement, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'on en arrive à changer les choses? Et donc, il y a une interrogation sur l'efficacité de l'action publique. Et puis, le deuxième message aussi qui nous est adressé, c'est de dire on ne nous écoute pas. Ils ne nous écoutent pas en parlant des élus, en les mettant tous dans le même sac, de manière parfois un peu injuste. Mais enfin, bon, c'est le message. C'est ce sentiment que, voilà, il y a des messages qui sont adressés aux élus et qui ne sont pas entendus. Et ça, très clairement, le référendum sur l'Europe en 2005, qui n'avait pas été suivi d'effet, a été une rupture pour une partie des électeurs. Mais on peut voir aujourd'hui qu'il y a encore d'autres référendums. Il y a eu, par exemple, sur Notre-Dame-des-Landes, où il y a eu des consultations populaires, où finalement, la décision se fait à l'encontre de ce que les gens décidaient.
Romain Meltz, alors, est-ce qu'on peut dire que les Français ne croient plus au vote ?
Individuellement, il faut bien reconnaître que ça ne peut servir à rien, un vote. Dans l'immense majorité des cas, jamais un élu qui serait l'élu de votre cœur ne sera élu grâce à votre voix. Donc d'une certaine façon, voter ne sert à rien, n'a jamais servi à rien de ce point de vue-là. Mais si vous voulez, nous on sait bien que ce n'est pas tout à fait la même chose, que notre vote individuel ne change rien, mais qu'il peut se passer une agrégation de votes qui peuvent s'agréger parce que quand même, on a entendu, en tant qu'électeur, un message qui nous a paru crédible d'un homme politique qui propose quelque chose. Donc, si vous voulez, à ça, on est attaché, au fait que le fait de voter change des choses. Même si M. Breton dit, les gens reprochent que ça ne change pas. Mais on voit bien que ça change un peu des choses. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir François Fillon ou Emmanuel Macron à la tête de la France pendant 5 ans. Et on est attaché à ça, même si individuellement, notre vote, effectivement, ne sert à rien.
Il y a la question de la prise en compte ou non des votes blancs et votes nuls, où des personnes peuvent mettre en avant le fait que, vu que ces votes blancs, votes nuls ne sont pas pris en compte, la personne élue n'est pas représentative. Quel rôle joue le vote blanc ?
Le vote blanc est aujourd'hui comptabilisé, puisqu'on a une pile, entre guillemets, des bulletins blancs où on sait combien il y en a. La question, c'est qu'il n'est pas intégré dans les suffrages exprimés, c'est-à-dire qu'il n'est pas considéré comme un suffrage parmi d'autres. Tout ça parce qu'effectivement, on avait peur que ça affaiblisse, que ça dégrade un peu la représentativité de ceux qui ont été élus, en disant, mais finalement, ils ont, au deuxième tour, ils n'ont pas atteint 50%, il a peut-être 48%, le deuxième à 45%, et il y aurait 7% de blanc, admettons. Eh bien, ça veut dire que celui qui est élu n'a pas été élu avec 50%. Moi, je crois que maintenant, les gens savent, vu les taux d'abstention, etc., qu'on n'est plus élu avec 50% des gens. Donc, je suis personnellement pour la prise en compte du vote blanc, parce que les gens font la démarche d'aller voter, ça veut dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'offre politique. Et donc, qu'effectivement, c'est aussi un message qui nous est adressé. On a été un peu frileux au niveau de notre mission d'information en ne faisant pas cette proposition. Moi, je la faisais à titre personnel et je continue à la faire.
Romain Meltz, est-ce que prendre en compte les votes blancs, nul changerait quelque chose à la participation au vote ?
Imaginez qu'on dise, maintenant, le vote blanc sera un suffrage exprimé. Ça veut dire quoi ? Concrètement, ça ne résout aucun problème. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on dit que si le vote blanc arrive en deuxième, on fait un deuxième tour avec juste le premier, puis personne d'autre, puisque le vote blanc est arrivé en deuxième position au premier tour, par exemple pour les législatives. Vous voyez, ça ne veut rien dire, en fait, concrètement, de dire on va comptabiliser le vote blanc comme un vote, un suffrage exprimé. Il resterait des questions considérables à résoudre. Est-ce que si le vote blanc arrive en premier dans les suffrages exprimés, c'est-à-dire qu'on refait l'élection, on recommence, c'est-à-dire qu'on vote tous les quatre matins, vous voyez ? Donc ça n'a pas vraiment de sens.
Xavier Breton, une réaction ? Vous qui étiez favorable justement à ce qu'il soit pris
Oui, enfin le sens, c'est de considérer que les suffrages sont égaux entre eux. Voilà, ça c'est quand même important. Donc celui qui fait l'effort de se déplacer, son vote, fût-il blanc, a la même valeur que celui qui a choisi de porter sa voix pour un candidat. Ceci dit, j'entends tout à fait les objections de M. Meltz, parce que ça pose des questions. Ceux qui font des propositions de loi qui visant à la reconnaissance du vote blanc parmi les suffrages exprimés prévoient effectivement la possibilité de si le vote blanc arrive en tête, de refaire une élection où à ce moment-là, les votes blancs ne seraient pas pris en compte de telle façon à ce qu'on débouche sur une démarche positive. Alors, j'entends que ça serait compliqué. Donc, on voit bien qu'il faut travailler le sujet. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui relance la participation et tout. Hein. On n'est pas sur des chiffres. Hein. Quand on sait qu'on a encore 6 ou 7 millions de personnes qui sont non inscrites ou mal inscrites dans notre pays, on voit que les enjeux sont beaucoup plus importants de ce côté-là. Les difficultés à faire des procurations, où ça reste encore quelque chose de même si ça s'améliorait, mais de lourd. On a plein de choses pour améliorer la participation électorale. La question du vote blanc, je crois qu'elle mérite d'être posée parce que, encore une fois, ça correspond aussi à un rapport entre la population, les citoyens et l'offre politique. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui un décalage et c'est aussi une manière d'exprimer cette insatisfaction par rapport à l'offre politique.
Xavier Breton, une consultation citoyenne autour de l'abstention a été organisée sur le site de l'Assemblée nationale en octobre dernier. Pourquoi cette initiative à quelques mois de l'élection présidentielle ?
Là, ça a été la deuxième ou troisième meilleure affluence, entre guillemets, en termes de réponses, puisqu'on a eu 173 000 réponses. Le but pour nous, ça a été surtout de regarder ceux qui répondaient, qui sont eux-mêmes abstentionnistes. Soit abstentionniste occasionnel, soit abstentionniste récurrent, voilà, habituel. Parce qu'effectivement, les abstentionnistes, on les connaît peu. On se rend compte que finalement, les études, même les études sociologiques, etc., on sait qui a voté communiste et passé à droite, ou qui a voté à droite et passé écologiste, etc. Dans tous les sens, ça, il y a des études qui sont faites. Sur les abstentionnistes, on a l'impression que c'est une grande masse et qui est un peu indistincte. En fait, on se rend compte qu'il y a différents types d'abstention en fonction du milieu géographique, du milieu social, de l'âge, etc. Et donc, nous, c'était pour avoir une approche un peu qualitative que ceux qui s'abstiennent aient aussi la possibilité de s'exprimer, qu'on comprenne un peu mieux leur motivation. C'était l'objet de cette consultation.
Alors, Xavier Breton, après cette consultation citoyenne, il y a un rapport qui est sorti avec 28 propositions. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes ?
Si vous voulez, vous avez soit des propositions qui sont assez techniques et qui n'ont pas posé de problème, qui ont été adoptées à l'unanimité de la mission d'information. On était 25 membres, hein, donc c'est ce qui est, par exemple, faciliter les procurations. Est-ce qu'on ne pourrait pas dématérialiser complètement ? Ça implique quand même qu'on vérifie la sincérité de la procuration. Mais aujourd'hui, avec les systèmes de visio, des systèmes de code, etc., ça permettrait quand même d'authentifier la décision. Donc ça, c'est les questions de procuration. Les questions d'inscription qui sont très importantes, où là, avoir une inscription automatique sur les listes électorales avec les déménagements qui pourraient se faire, là aussi, ça implique de mettre en place des systèmes, mais je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. Et puis, il y a des questions, des sujets, des propositions qui ont été étudiées, qui, elles, ne font pas l'unanimité, parce qu'elles posent des questions, et notamment le vote par Internet. C'est-à-dire, finalement, pourquoi on ne pourrait pas prendre son smartphone et puis, dimanche, dans la journée, prendre 3 minutes pour voter. Ça paraît, aujourd'hui, on fait déjà beaucoup de choses comme ça, hein, y compris des mouvements financiers, etc. Il y a des sécurités qui existent, mais ça pose un problème d'abord de vérifier qu'il n'y a pas de pression sur la personne qui, au moment de son choix. Aujourd'hui, on n'a pas les capacités de le faire, parce que notamment en termes de risque d'intrusion d'une puissance étrangère dans le processus électoral, l'agence de sécurité informatique nous a dit « on ne sait pas faire en ce moment, mais on saura faire un jour ». Je crois qu'il faut tenir compte de cette évolution, mais c'est de s'interroger avant tout sur c'est quoi la démocratie et c'est quoi ces principes auxquels nous devons rester attachés et ensuite les moyens suivront.
Romain Meltz, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Lyon 2. Alors quel est votre avis sur cette question donc, du vote par Internet ?
Faut voir comment ça s'est passé la dernière fois. 3 jours avant le vote des régionales en juin dernier, 2021, le Premier ministre dépose devant le Sénat, parce que c'est comme ça que ça se passe, la loi 3DS, qui va modifier les prérogatives de la région. Donc au moment même où on vote, soi-disant pour les régionales, on est en train de changer ce à quoi vont servir les régions, tout en disant, et vous savez, vous devriez voter aux régionales, parce que ça vous concerne, c'est votre vie quotidienne. Et on dit aux gens, c'est votre vie quotidienne, pourquoi ? Bah, c'est la SNCF, vous savez. Bah, comment ça la SNCF ? Bah oui, là, c'est la région qui s'occupe de la SNCF. Et la SNCF, alors ? Ah bah oui, non, mais non, c'est la région quand même. Alors c'est évidemment, les gens vont voter au présidentiel, pourquoi ? Mais parce que là, c'est clair. Il y a une circonscription, c'est la France, et il y a quelqu'un qui dirige ce pays, c'est le président. Voilà, c'est tout. Le reste, si vous voulez, on peut s'amuser à inventer des mesurettes, mais il faudrait quand même commencer par reprendre le problème par le bon bout.
Donc ce que vous dites, pour vous, le bon bout, c'est de clarifier les choses ?
peut-être M. Xavier Breton, c'est pas le cas, mais essayer de prendre un élu d'une ville, d'une grande ville, même de Bourg, ça, et vous lui dites, bon, alors cette place, est-ce que c'est l'interco qui la gère? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est la... Vous voyez, il ne saura pas lui-même. Hein. C'est d'une telle complexité, les interventions publiques, que qui s'occupe de la gestion de l'eau et qui met les normes, qui a une délégation de service public. Enfin, c'est d'une telle complexité que les élus généralement ne connaissent pas. Donc vous ne pouvez pas quand même demander après aux électeurs d'arbitrer dans des choses qui ne sont même pas connues par les élus. Donc vous voyez, on ne peut pas faire de la décentralisation et foirer autant la décentralisation telle qu'on l'a fait depuis 83, et après dire aux gens, c'est curieux, ils ne viennent pas voter.
Xavier Breton, une réaction.
Oui, j'entends, hein, je suis d'accord que la décentralisation joue un rôle, mais je ne suis pas sûr qu'il soit aussi important. La preuve, c'est que le phénomène d'abstention ne touche pas que les élections politiques. Vous venez d'avoir
les courbes ont commencé, vous pouvez regarder les courbes s'élèvent à partir des années 80, pile à ce moment-là.
Je suis d'accord, mais vous regardez les élections consulaires, chambre de commerce, chambre de métier, où les gens sont concernés directement, c'est les artisans entre eux, là, c'est à 10-12%. Quand vous regardez pour l'élection du président de l'Association des maires de France, oui, vous avez les maires qui votent, qui ont le choix entre deux candidats, c'est pas un seul. Deux candidats. Il n'y a qu'un tiers des maires qui votent. Donc, vous vous rendez compte, les élections au Conseil de l'Ordre, des médecins, moi je vois les chiffres, partout, vous avez un phénomène d'abstention, donc qui n'est pas dû à la décentralisation. C'est un phénomène de citoyens qui sont individualisés, entre guillemets, qui se retrouvent seuls et qui ne donnent plus sens à une action collective. Et donc, je pense que ça interroge. Mais je suis d'accord que la décentralisation, aggrave les choses et que, justement, les gens ne savent plus où ils habitent, c'est le cas de le dire. Ils ont encore un échelon dans lequel ils sont bien ancrés, c'est la commune. Ils ont, comme vous le disiez, M. Meltz, l'échelon du pays avec des enjeux clairs. Hein, donc, voilà. C'est l'élection présidentielle. Alors que tout ce qui est du territoire et qui devrait, au contraire, mobiliser, hein, parce que moi, je...
Tout à fait.
Je crois, ça rajoute. Mais tout ça va avec un fond aussi d'individualisme dans notre société où on ne trouve plus le sens de l'expression collective, on ne donne plus de sens. Et donc, ce phénomène d'abstention, il est pas que politique, il est vraiment dans beaucoup de choses. Et on pourrait même aller pour voir aujourd'hui les difficultés de recrutement de les associations pour s'investir, etc. On voit que ça renvoie aussi à un état d'esprit de notre société, quoi. Donc, il y a à la fois une mise en cause de nous en tant qu'élus dans notre manière de faire sur les dernières années, les dernières décennies, il y a un message qui nous est adressé. Donc voilà. Mais il y a aussi la société qui doit s'interroger sur ce qu'elle veut devenir et si elle retrouve un sens à l'action collective.
C'est un avis que vous partagez, Romain Meltz ?
On observe très nettement que les gens en couple votent beaucoup plus que les gens célibataires. Bon, mais vous voyez, on ne va pas se dire que tout le monde marié pour que les gens entre eux parlent de politique, donc s'intéressent et votent. Oui, donc effectivement, il y a des mouvements de la société, mais si vous voulez, c'est difficile de contrôler ça. Moi, je pense qu'il serait quand même bon d'harmoniser un petit peu le système politique et de clarifier les choses de manière à ce que la mairie, on voit bien ce que c'est, l'interco, on voit bien ce que c'est, le département, on voit à quoi ça sert, et c'est pas la CAF, c'est le département. Oui, mais les allocations, c'est le département ou c'est la CAF? Ah, ben, c'est la CAF qui vous déverse. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a quand même beaucoup à faire de ce côté-là avant que... Enfin, après, on peut tout à fait se poser la question de savoir comment on doit faire société ensemble. Mais si vous voulez, ça nous échappe un petit peu à ça. Il vaut mieux essayer de se concentrer sur simplifier les procédures politiques de ce pays.
Messieurs, merci.
Merci à vous.
Xavier Breton, député de l'Ain et conseiller régional, et Romain Meltz, professeur de sciences politiques à l'Université Lyon 2. Dès le 14 mars pour l'élection présidentielle, Radio B donne la parole aux associations. Les assos parlent aux candidats, c'est la nouvelle chronique dans À vous les Burgiens. Droits des femmes, handicap, jeunesse, ruralité, ces sujets seront abordés par des associations locales. Elles nous expliqueront ce qu'elles attendent de la prochaine présidence dans leur domaine de travail. Soyez à l'écoute lundi prochain, nous parlerons handicap avec l'AFIS, l'association pour l'accueil, la formation et l'insertion des personnes sourdes, et l'APF France Handicap de Bourg-en-Bresse. Vous vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député ?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
Ouf ! En reportage avec Radio B.
Les enfants du centre social Le Lavoir au pouvoir.
Pendant une semaine, Chiara, Yomna, Maxence, Adam et Samuel ont créé leur propre gouvernement des enfants. Ils ont choisi leur ministère et ont cherché à recruter d'autres ministres dans les rues d'Ambérieu-en-Bugey. Un podcast fiction dans le cadre de l'élection présidentielle.
m'appelle Adam, j'ai 12 ans et demi.
Je m'appelle Yona et j'ai 10 ans.
Je m'appelle Samuel et j'ai 14 ans et bientôt 15.
Je m'appelle Maxence et j'ai 11 ans.
Je m'appelle Chiara et j'ai 10 ans.
Les enfants du centre social de Léa, au pouvoir.
Les enfants au pouvoir.
C'est la révolution.
C'est la révolution.
C'est la révolution.
C'est la révolution.
Une émission
Radio B.
90 FM.
Bonjour à toutes et à tous, françaises, français, de tout âge. Nous, enfants du centre social Le Lavoir, avons décidé de prendre le pouvoir.
Mais attends, Samuel, c'est quand même beaucoup de responsabilités.
Oui, et puis comment ça marche quand on est au pouvoir?
Mais je sais pas du tout, moi.
Calmez-vous, calmez-vous. Oui, vous avez raison. Bon, on va faire quelques recherches et on revient. Restez à l'écoute.
Les enfants au pouvoir.
Écoutez Radio B.
C'est la révolution.
Après de longues et intenses recherches d'environ 1h10, nous allons vous expliquer le principe d'un gouvernement et le rôle d'un président. Samuel, à quoi sert le président de la République ?
Eh bien, en France, tous les 5 ans, le peuple vote pour un président. C'est le cas en 2022. Il est élu pour servir tous les Français. Il garantit la sécurité du pays et fait attention à l'application des lois. Le président ne fait pas ce qu'il veut. Il doit respecter la Constitution. C'est un texte qui donne les règles de la Ve République. Et pour l'aider dans toutes ses tâches, le président s'entoure de ministres.
Et c'est quoi un ministre, Yomna ?
Les ministres forment le gouvernement. Le président choisit un premier ministre et ils vont choisir ensemble d'autres ministres. Chaque ministre s'occupe d'un sujet précis, comme le travail, le sport ou la santé. Ils peuvent faire des projets de loi qui sont votés à l'Assemblée et au Sénat. Le gouvernement doit être composé avec autant de femmes que d'hommes.
Ça tombe bien, on est 2 filles et 2 garçons. On peut faire notre gouvernement des enfants.
Et le gouvernement se réunit tous les mercredis pour parler des nouveaux projets ou des projets en cours. C'est le Conseil des ministres.
Allez, on fait notre gouvernement des enfants.
Installez-vous autour de la table ronde. C'est parti pour le Conseil des ministres.
Vous écoutez
Radio B.
C'est sur le 90 FM.
Bonjour à toutes et à tous, enfants du centre social Le Lavoir. Bienvenue dans ce Conseil des ministres qui respecte bien la parité, 2 filles et 2 garçons. Je suis Inès, votre médiatrice pour aujourd'hui.
Bonjour.
Après un débat riche en émotions et en sucreries, vous avez choisi 4 ministères. Chiara, ministre de l'écologie, Yomna, ministre de la fête et des arts, Samuel, ministre des sports, et Adam, ministre de la famille et des amis, représenté ce jour par son fidèle conseiller Maxence. Adam s'excuse, il a dû s'absenter pour une réunion amicale de basket, et il vous souhaite un très bon conseil des ministres. Nous allons donc commencer avec vous, Maxence. Quel projet le ministre de la Famille et des Amis souhaite-t-il soumettre au vote du Parlement ?
Nous souhaitons un accès à la nourriture pour toutes les familles françaises. Nous allons mettre en place un panier de nourriture gratuit par semaine d'une valeur de 100 euros pour les familles dans le besoin. Et bien sûr, les friandises et les gâteaux seront compris dans ce panier.
Très bien, conseiller Maxence. Je note. Autre chose ?
Oui, certains Français ne peuvent pas rejoindre leur famille ou leurs amis. Les billets d'avion et de train sont trop chers. Tous les Français auront le droit à un voyage gratuit par an pour rejoindre les gens qu'ils aiment.
Nous soumettrons ces idées au Parlement. Merci Maxence, conseiller auprès du ministre de la Famille et des Amis. Maintenant, c'est au tour de la ministre de la Fête et des Arts. Yomna, à vous la parole.
Pour encourager les enfants, les adultes devront organiser une fête pour chaque bonne note. Et l'utilisation de feux d'artifice est conseillée. Je veux aussi que toute personne qui a fait quelque chose de très gentil puisse avoir son portrait. Nous les exposerons dans un musée public des portraits pour récompenser la gentillesse.
Merci Yomna, ministre de la Fête et des Arts. Nous transmettrons ces idées. Passons au sport maintenant avec le ministre Samuel.
Pour encourager la pratique du sport pour tous les Français, quels que soient leurs moyens, je veux rendre gratuit l'accès aux stades de foot, de rugby, aux gymnases de basket, aux salles de ping-pong et de tennis. Tous les équipements seront gratuits pendant les vacances scolaires. Un bon de 100 euros sera donné à chaque famille pour aller faire une activité sportive. Le laser game, l'acrobranche et la patinoire seront compris dans ce bon.
Merci, ministre Samuel, en charge des sports. On termine le Conseil des ministres avec la ministre de l'écologie, Chiara.
Pour limiter le gaspillage, je veux installer des composts dans toutes les villes de France. Un rouleau de sopalin en tissu réutilisable et lavable sera donné à chaque foyer français. Et je veux mettre fin à la fabrication d'objets en plastique, un matériau qui pollue beaucoup.
Merci, ministre Chiara. Nous avons fait le tour de vos nombreuses idées et nous allons maintenant soumettre vos projets de loi au Parlement. Les députés et les sénateurs qui représentent le peuple français vont voter pour ou contre ou bien s'abstenir. On en reparle dans quelques mois. Ce Conseil des ministres est terminé. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Vous écoutez Radio B.
Quatre ministres, c'est pas beaucoup quand même. Ils sont plus de 10 d'habitude.
Il faut qu'on recrute de nouveaux ministres.
Mais comment ? On n'a qu'à aller dans la rue. On est juste à côté de la gare d'Ambérieu.
Allez, c'est parti, on va chercher de nouveaux ministres.
Nous sommes un gouvernement d'enfants et on cherche des ministres. Quel ministre tu voudrais être ?
Moi, je voudrais être ministre de l'éducation parce que je trouve que le système scolaire est très mal fait et très inadapté à la plupart des élèves. Beaucoup d'enfants décrochent alors qu'on pourrait faire quelque chose de plus fun, de plus en groupe, de plus adapté au niveau de chacun.
D'accord. Et quels sont vos projets ?
Moi, je pense que la première étape, c'est de faire un temps plus partagé entre le scolaire et l'école et les activités sportives, culturelles derrière l'après-midi pour que les enfants se découvrent et fassent autre chose que de l'école.
Je serai ministre de l'Environnement.
Et pourquoi ?
La cause humanitaire m'est chère et j'aimerais bien restaurer la faune et la flore.
Quels sont vos projets ?
Je limiterai le gaspillage alimentaire, je limiterai la consommation de plastique, les emballages dans les magasins et après éventuellement essayer de sensibiliser la population aux déchets. Voilà.
Bonjour, en fait on est un groupe d'enfants et on cherche un adulte ministre et je vais vous demander si vous étiez ce ministre, quel ministère vous serez
Ministre des Sports, hein, au moins ça nous maintient en forme, à améliorer les infrastructures existantes. Hein.
Moi, je m'occupe de jeunes, alors de faire des associations de jeunes importantes, qu'ils aient un poids et puis qu'on puisse les écouter un petit peu.
De la santé.
De la santé, très intéressant. Et quel projet vous envisagerez ?
De mettre plus de monde dans les hôpitaux, de former plus de médecins.
Bah, l'écologie, parce qu'on a besoin en ce moment. Déjà, en premier lieu, mettre le tri sélectif obligatoire.
Je vais dire la musique, alors.
Et pourquoi ?
Parce que c'est une passion, j'aime bien chanter, et voilà.
Ministère de la Justice, parce que j'ai fait des études de droit, comme unification, qui a un suivi un peu plus important sur les dépôts de plaintes des femmes qui subissent des violences de la part de leurs conjoints, etc. Ça pourrait être un bon début.
Merci d'avoir participé, c'est très sympa, au revoir.
Je vous remercie, bon courage à vous, bonne continuation.
Vous écoutez Radio B.
Avec les enfants du Centre Social Le Lavoir.
Alors, on garde qui pour notre gouvernement ?
Moi, je veux garder le ministre de la Santé.
J'ai bien aimé le ministre de l'Écologie.
Moi aussi. Et celle de la Justice était super.
Alors, on garde les ministres de l'Écologie, de la Santé et de la Justice. Voilà, on a bien recruté. Bravo à tous et à toutes.
J'espère juste que nos projets vont être validés par les députés et les sénateurs quand même.
Sinon, on fera une vraie révolution.
Ouais, ouais.
Chers compatriotes, bonne journée à tous.
Les enfants du Centre Social Le Lavoir, au pouvoir.
Le pouvoir aux enfants.
C'est la révolution.
C'est la révolution.
C'est la révolution.
C'est la révolution.
Vous dites à
curé.
Vous êtes sûr de m'entendre là?
Radio B.
Veuillez m'excuser, mesdames.
Merci, Agnès.
Une émission
Radio B.
90 FM.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90 FM. Bonne semaine sur nos ondes.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.